façon exceptionnelle, chers auditeurs, nous aurons la possibilité, la joie d'avoir avec nous Madame Combé Christine, elle est conseillère juriste au niveau de la DIL. Avec elle, nous parlerons de logement et risques, que ce soit du côté du propriétaire ou du locataire. Madame Combé, bonjour. Christine,
bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes conseillère juriste au niveau de la DIL.
Tout à fait.
Avec vous, nous parlerons du logement et des risques. Alors, avant d'aller plus loin, pour toutes ces personnes qui découvrent, qu'est-ce que c'est que la DIL?
Alors, la DIL, c'est l'agence d'information sur le logement. Donc, nous sommes un centre d'information sur l'habitat. Notre mission consiste à informer et à conseiller gratuitement le public, le particulier, sur toutes les questions qui tournent autour du logement et de l'habitat. Donc, qu'il s'agisse des rapports locatifs, de la construction, de l'amélioration de l'habitat, de la copropriété. Donc, nous dispensons gratuitement des conseils juridiques, financiers et fiscaux. Donc, la DIL est un organisme agréé par le ministère en charge du logement, par l'ANIL, notre maison mère, hein. Et nous faisons partie d'un réseau national qui compte environ, presque, on va dire, une centaine d'ADIL, répartis en métropole et dans les départements d'outre-mer.
Très bien. Donc, est-ce qu'un particulier ou encore un professionnel peut se diriger vers vous pour avoir des conseils gracieux ou pas?
Oui, alors c'est principalement les particuliers. Nous n'enseignons pas les professionnels. Donc, les conseils de l'ADIL s'adressent aux particuliers qui souhaitent avoir des conseils juridiques, financiers et fiscaux sur tout ce qui va toucher au logement et à l'habitat.
Vous avez choisi en fait cette thématique, le logement et les risques. Et vous parlerez le simple fait d'intégrer le risque sismique dans le cadre du logement. En quoi est-ce réellement important ça, Madame Combé?
C'est important parce que c'est une problématique qui nous concerne tous et en particulier nous, habitants de la Guadeloupe, puisque nous sommes directement concernés par ce risque sismique. Hein. Vous avez en tête toutes les campagnes de prévention, de sensibilisation qui sont menées par les services de l'État, donc à la demande desquelles nous intervenons d'ailleurs sur ce thème aujourd'hui. Donc les services de l'État, la DEAL en particulier. Donc ce risque sismique, nous devons apprendre à vivre avec, à nous y préparer, bien sûr, et à l'intégrer dans nos pratiques quotidiennes, donc notamment dans cet espace lié au logement. Alors pourquoi le logement? Ben, parce qu'on sait bien que par rapport au séisme, le danger réel, ce n'est pas le séisme en lui-même, mais c'est le risque d'effondrement des constructions qui accueillent donc des personnes, rend les séismes dangereux et le risque d'effondrement de ces constructions sur les personnes qui habitent les logements, qui travaillent dans des logements, des enfants qui vont à l'école, toutes les structures qui accueillent du public et le risque en perte de vie humaine. Donc ce risque, il peut être évité ou en tout cas, il peut être largement limité si on adopte tous les bonnes pratiques.
Alors vous disiez qu'il faut l'intégrer. Alors comment l'intégrer?
Alors, en ce qui nous concerne à la DIL, on a une démarche, on va dire, pédagogique vis-à-vis des personnes qui viennent nous consulter pour leur expliquer justement comment envisager et intégrer ce risque sismique, par exemple, dans un projet de construction. Alors, il faut savoir que, comme je l'ai expliqué, il existe un certain nombre de normes, hein, de dispositifs réglementaires qui entourent la construction et dans les départements qui sont concernés par le risque sismique, la Guadeloupe en fait partie, et sur une échelle de classement de 1 à 7, nous sommes en zone sismicité 5, donc ça veut dire la zone où l'aléa est le plus fort. Donc par rapport à ce risque, nous conseillons les personnes justement sur les dispositifs réglementaires qui existent pour faire face à ce risque dans la construction. Il faut savoir que lorsqu'on envisage de construire sa maison, pour mieux anticiper sur un séisme, parce que malheureusement, on ne sait pas quand ça va arriver, à quel moment, mais il faut s'y préparer. L'aléa, il est là, mais on sait déjà qu'on est potentiellement concerné. Donc, il faut s'y préparer. Et s'y préparer, donc c'est dans le cadre d'une construction, les personnes qui viennent nous voir, on leur explique les démarches pour pouvoir intégrer ce risque. Donc, ça va se passer à différents niveaux. Par exemple, une personne vient à la DIL, elle souhaite faire construire sa maison, elle souhaite acheter un terrain. Donc déjà, à la première étape qui concerne le choix du terrain, on va lui expliquer que au moment du choix du terrain, il y aura un certain nombre de vérifications à faire, et notamment des vérifications concernant la nature du sol et la vérification du zonage de terrain par rapport au plan de prévention des risques naturels. Donc les plans de prévention des risques naturels ont été mis en place effectivement par le législateur pour informer les futurs acquéreurs, que ce soit d'un terrain, d'une maison et même une personne qui va être amenée à louer un logement. Ce plan de prévention des risques va informer les personnes concernées sur le zonage, le quadrillage en termes de risque du bien qu'elles envisagent d'acquérir ou de louer.
Alors là, on va rester sur le premier cas, le propriétaire, d'accord, oui. Il veut construire. Donc vous disiez que
il aura deux vérifications à faire par rapport au choix de son terrain déjà. Donc supposons qu'il envisage d'acheter un terrain pour construire sa maison. Donc, le choix du terrain, il devra vérifier que par rapport au zonage risque naturel, le terrain se situe dans une zone constructible au regard de ces risques naturels. Donc, le zonage est établi par les services de l'État sur la base de données scientifiques, de relevés notamment topographiques et autres. Donc, on établit un zonage couleur, qui va d'une zone rouge, donc qui sera considéré comme inconstructible parce que le risque sera trop élevé, à une zone blanche qui sera considérée comme exempte de risque. Donc déjà par rapport à ça, il ne sera pas forcément possible d'envisager la construction si par exemple le terrain se situe en zone rouge. Donc là, il ne sera pas possible de vendre ce terrain du tout et d'envisager une construction dessus. On peut avoir entre les deux des zones bleues et bleues foncées où là, la construction sera peut-être possible, mais avec des adaptations, des préconisations à réaliser sur la construction.
Alors, pour avoir justement davantage d'informations, est-ce qu'il y aurait un logiciel ou une application sur Internet qui nous permettrait aussi d'être un peu autonome ou de découvrir par nous-mêmes?
Non, alors, c'est une obligation légale. C'est-à-dire que le vendeur du terrain doit de toutes les façons vous fournir préalablement à la vente.
Voilà.
Le document, c'est un document qui, s'il n'est pas fourni, peut entraîner la nullité de cette vente.
Très bien.
Donc, c'est une obligation au moment de la vente. Alors, par contre, il ne faut pas forcément attendre le dernier moment pour être informé. Donc, n'importe quel particulier intéressé par un terrain peut se rendre à la mairie ou consulter les plans de prévention des risques au niveau des services de la DEAL, notamment sur le site Internet. On peut aller en mairie ou en préfecture.
Vous allez trop vite, dites-nous sur le site Internet.
Voilà,
dites-nous.
Pour consulter donc les plans de prévention des
risques. On tape quoi sur Internet?
Alors, sur Internet, on peut aller sur le site de la DEAL, d'accord? Donc, DEAL Guadeloupe, je pense. Je n'ai pas le intitulé exact, mais il y a un lien sur ce site à partir de notre propre site ADIL. Voilà. Donc, on peut facilement... on peut contacter aussi les services de l'État. On peut aller directement dans la mairie, concernée, hein, où se trouve le terrain, au service urbanisme de la mairie. On peut vous remettre un extrait du plan de prévention des risques. Donc, c'est un document qui est quand même très facile à obtenir et qu'on peut obtenir gratuitement.
Très bien. Alors là, quand on est maintenant locataire, avant d'accepter cette location, quelles précautions qu'on devrait absolument prendre?
Alors, je m'adresse à la fois aux futurs locataires, mais aussi aux futurs aux propriétaires. Donc, un propriétaire aujourd'hui, donc c'est vrai qu'on se rend compte à la DEAL que beaucoup de propriétaires ne sont pas informés de cette obligation qu'ils ont. Mais à la signature du contrat de location, vous devez transmettre et fournir en annexe au contrat de location ce qu'on appelle un état des risques à votre locataire. Donc, c'est un document qui a une vocation d'information. Il a pour objectif d'informer avant toute chose le locataire. Donc, ça n'a pas d'incidence ni sur la fixation du prix du loyer, ni sur le déroulement de la location, mais il a pour vocation d'informer le locataire sur les risques qui vont s'appliquer au logement, c'est-à-dire sur les risques qui vont concerner son logement dans la zone d'habitation qu'il aura choisie. Donc, bien évidemment, le locataire verra automatiquement cocher risque cyclonique, risque sismique et risque volcanique, puisque ce sont trois risques pour lesquels on est tous concernés, quelle que soit la commune. Mais dans certaines communes, il peut y avoir d'autres aléas. Par exemple, ce qu'on appelle la montée des eaux, le risque d'inondation par rapport à la présence d'un cours d'eau ou de ravine. Voilà. Donc le locataire, lorsqu'il accède au logement, il est informé que potentiellement il est concerné par l'ensemble de ces risques. Donc le propriétaire a l'obligation de fournir au moment de la signature du bail un document qu'on appelle l'état des risques, qu'il aura pris le soin de remplir en indiquant les risques concernés. Donc le document se remplit à l'aide de l'arrêté préfectoral et a classé les différents plans de prévention de risques par commune, donc chaque commune étant concernée par des risques spécifiques.
Alors dites-nous, pour le propriétaire, il prend voilà. Où exactement cet
Alors,
état de risque?
Le propriétaire peut récupérer l'état des risques, donc le plus simple, je dirais, c'est de se rapprocher de nous à la DIL. On peut lui fournir ce document avec l'arrêté préfectoral et lui expliquer comment le remplir.
D'accord. En tout cas, c'est un réflexe que le locataire doit avoir quand il signe son bail.
Le locataire ne doit pas oublier de demander cet état des risques, mais le propriétaire ne doit pas oublier de le fournir puisque cette obligation repose sur lui. Donc le locataire, s'il n'est pas au courant, il peut ne pas demander et ben, le propriétaire, s'il ne sait pas non plus, il ne le fournit pas. Mais il faut savoir que, et je m'adresse aussi surtout au propriétaire, que ne pas fournir ce document vous expose à ce que le locataire puisse demander l'annulation du contrat de location carrément, voire même une diminution du prix du loyer. Donc attention, il y a des locataires, oui, il y a des locataires qui se renseignent quand même sur leurs droits et bon, qui vont pas hésiter parfois à exiger l'application des sanctions.
Très bien.
Donc le propriétaire doit être informé qu'il doit fournir ce document.
Très
Donc
bien.
Généralement, si le propriétaire passe par une agence, l'agence est informée de cette réglementation. Elle ne prendra pas le risque d'exposer le propriétaire aux sanctions et elle fera souvent le nécessaire puisque l'agence se charge de de l'établissement du contrat. Donc, elle va également fournir le document. Mais le plus souvent, nous, ce qu'on observe, c'est que les propriétaires qui traitent en direct, hein, qui ne passent pas par une agence, ne savent pas du tout qu'ils ont l'obligation de fournir ce document-là.
Donc, si, par exemple, suite à cette émission, certains l'apprennent, là, des certains propriétaires, il n'est pas trop tard pour faire le nécessaire.
Il n'est pas trop tard pour le transmettre hein, au locataire, même si vous ne l'avez pas fait à l'entrée, à la signature du contrat, à l'entrée dans les lieux. Vous pouvez aujourd'hui rectifier le tir et lui remettre ce document. Bon, le principe étant qu'il doit l'avoir eu au moment où il entre dans le logement, puisqu'il doit avoir l'information en amont.
Sur quoi doit-on être veillatif encore en tant que locataire?
Alors, par rapport toujours au risque.
Oui, tout à fait.
Alors, c'est vraiment, par rapport à un locataire, c'est vraiment ce seul élément.
Très bien.
Donc, pour revenir un petit peu, puisque le risque sismique en particulier concerne de façon plus précise
le propriétaire,
la personne qui fait construire sa maison.
Très bien.
On a bien expliqué que l'aléa principal, c'était le risque d'effondrement. Donc, il faudra, autant que faire se peut, s'assurer par rapport aux différentes actions qu'on va engager pour la construction, d'avoir pris toutes les précautions pour construire en toute sécurité. Donc, j'ai expliqué déjà par rapport au choix du terrain, consulter le plan de prévention des risques concernant votre commune, là où se trouve le terrain, pour connaître la zone, le zonage risque naturel du terrain. Il faut également, si ça n'a pas déjà été fait par le propriétaire du terrain, il faudra également réaliser en complément donc une étude de sol sur ce terrain. Donc l'étude de sol, c'est quoi? J'explique rapidement, puisque c'est très important. L'étude de sol, c'est un prélèvement de sol. Il va être une étude qui va être réalisée par ce qu'on appelle un géotechnicien, donc un spécialiste de l'analyse du sol. Et l'objectif de cette étude, c'est de pouvoir déterminer avec précision et fiabilité la composition géologique du sol de manière à adapter de façon précise, de façon fiable, les fondations de la maison à ce sol. Donc un sol peut revêtir différentes couches et de différentes strates qui vont le rendre plus ou moins, on va dire, réceptif au mouvement. Donc, quand il y a un tremblement de terre, effectivement, ça bouge. Et c'est ce mouvement qui va se répercuter sur les fondations de la maison. Et si ces fondations ne sont pas bien adaptées par rapport au sol, eh bien, ça peut casser. Ça peut casser, ça peut entraîner des dégâts, voire même un effondrement de la maison qui peut, s'il y a des personnes à l'intérieur, entraîner les pertes en vie.
Alors,
donc,
étude de sol, étude de terrain, c'est ça ? Connaître
voilà,
son zonage.
Connaître, la,
son
connaître
zonage.
Le zonage de son terrain, son terrain mm-hmm. hein, la zone prévention des risques de son terrain.
Tout à fait.
Hein, voilà, donc ça, c'est un premier élément. Et mm-hmm. deuxièmement, connaître la nature du sol.
Oui.
Parce qu'il faut savoir que ben, le professionnel qui va s'appliquer à la construction de votre maison, donc que ce soit un architecte, que ce soit un bureau d'ingénierie du bâtiment, ce qu'on appelle un bureau d'études techniques, c'est celui qui conçoit les plans de fondation, les plans de structure de votre maison, ben, il aura besoin de l'étude de sol
voilà, c'est
pour
ça.
Pouvoir mieux bien concevoir votre projet.
Donc, quelque part, le constructeur est obligé, en fait, de faire cette démarche.
À notre sens, hein, oui. et en toute logique,
oui.
celui qui conçoit la maison, le constructeur, l'architecte, mm-hmm. le bureau d'études, devra s'appuyer sur l'étude de sol pour mieux définir les caractéristiques techniques de votre construction. Mm-hmm. Et c'est cette étude de sol qui lui dira quelle sera, par exemple, la profondeur des fondations. Mm-hmm. Bien évidemment, ça peut pas être la même... on peut pas construire de la même façon
à
un endroit ou à un autre. Mm-hmm. Donc, tout dépendra de la nature du sol.
Très bien.
Donc, le professionnel va s'appuyer sur les éléments de l'étude de sol. Il faut savoir qu'une étude de sol, ça coûte environ entre 1 500 et 2 000 euros. Mais c'est une étape qui s'avère vraiment
nécessaire,
indispensable,
obligatoire.
Essentielle, voilà, mm-hmm. si on veut construire de façon à respecter justement la réglementation parasismique.
Et ça arrive que certaines fois, certains constructeurs passent outre cette étude de sol ?
Bien sûr, donc c'est
D'accord.
pour cela qu'on insiste là-dessus, puisque mm-hmm. bien que cette étude de sol soit quand même indispensable,
oui.
Elle n'est toutefois pas obligatoire. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans la loi qui l'impose aux personnes.
Mm-hmm.
Si vous ne la faites pas et si vous décidez de vous passer de cette étude de sol, vous prenez votre responsabilité, on va dire, mais il n'y aura pas de sanction, vous ne serez pas puni.
Donc même si demain il y a un dégât par rapport à ce manque de respect, est-ce que c'est passible ? Est-ce que le constructeur peut être passible de peine par rapport à ça ?
Alors effectivement, il est toujours possible d'engager la responsabilité ensuite du constructeur pour le défaut de conseil.
Oui.
Parce qu'un constructeur, on va estimer que c'est un professionnel averti, qui connaît donc justement... les démarches à effectuer, qui a une meilleure connaissance des dispositifs qui pourraient éviter justement des dégradations, et qu'à ce titre, il était censé vous conseiller dans le bon sens. Donc, on peut parfaitement envisager effectivement une action en responsabilité si le constructeur a omis ou a volontairement choisi de ne pas réaliser l'étude de sol ou de vous conseiller de la faire.
Très bien. Dites-nous, mis à part ces étapes, là, quoi d'autre à noter en tant que propriétaire ou en tant que constructeur ?
Alors, en tant que maître d'ouvrage, hein, c'est-à-dire la
oui.
personne qui va faire construire sa maison,
oui.
À passer la phase du terrain sur la partie construction, le maître d'ouvrage, hein, donc la personne qui fait construire, devra être vigilant par rapport au choix des professionnels. Donc, le choix des professionnels, donc c'est vrai qu'on nous demande souvent, mais qu'est-ce qu'un bon professionnel ?
C'est ça, la question.
C'est vrai
et on vous la pose d'ailleurs.
Régulièrement, parce que bon, les gens, ils se documentent, ils s'intéressent quand même, quand ils sont dans leur projet, ils n'ont pas envie de commettre d'impair. Mais bien évidemment, il est difficile de répondre de façon assez... précise à cette question, puisqu'un bon professionnel, on va déjà dire aux gens, mais c'est quelqu'un qui dispose des garanties obligatoires. Donc n'oubliez pas que toute personne qui intervient dans le cadre d'une construction doit disposer d'une assurance décennale. Ça, c'est un premier point.
Est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce que c'est ?
Alors, l'assurance décennale, voilà, c'est une assurance de construction qui est obligatoire dès lors qu'une personne intervient sur une construction. Donc toute personne qui intervient à l'acte de construire, c'est ce que dit la loi, doit disposer de cette garantie décennale. Donc, elle couvre les dégâts, les malfaçons qui pourraient intervenir dans les 10 ans suivant la réception de votre maison. Alors, elle intervient principalement sur les désordres qui peuvent affecter la solidité de la maison, donc dans un premier temps, et qui peuvent carrément la rendre inhabitable.
Donc là, nous parlions de l'assurance décennale.
L'assurance décennale.
Très bien.
Donc, en complément de cette assurance décennale, vous, en tant que maître d'ouvrage, vous qui faites construire votre maison, vous devrez également souscrire à ce qu'on appelle une dommage ouvrage. Donc, elle vient en complément de la décennale et vous permet toujours, dans un délai de 10 ans suivant l'achèvement de votre maison, suivant la réception de votre maison, cette assurance dommage ouvrage en complément de la décennale des constructeurs va vous permettre d'obtenir une indemnisation rapide de tout désordre qui serait susceptible d'affecter la solidité de votre maison ou de la rendre inhabitable. Donc voilà, le choix du constructeur doit d'abord porter sur un constructeur qui va avoir au moins donc, cette assurance décennale.
Très bien.
Voilà, donc ça indique déjà, c'est un élément positif qui indique déjà une bonne démarche de l'entreprise. Donc, vous ne devriez pas en principe être amené à la réclamer, l'entreprise devrait vous la transmettre directement. Hein, donc, dans l'idéal, ce serait ça. Mais si ce n'est pas le cas, il faut toujours penser à exiger l'attestation d'assurance et vérifier qu'elle est bien à jour, qu'elle est bien valable, éventuellement en téléphonant directement à l'assureur.
Très voilà. Bien. Ça, c'est très important à noter.
C'est très important. Mmh. Ensuite, le choix du constructeur de l'entreprise va passer par la vérification du contrat qu'il vous propose. Donc, un contrat en bonne et due forme. Très souvent, on observe que les gens se contentent d'un devis chiffré. Mmh. Mais un contrat, c'est très important puisque ça va définir un petit peu toutes les modalités, c'est-à-dire la façon dont vont se dérouler les choses, la façon dont va se passer l'exécution même de la prestation, les modalités d'exécution. Donc ça, c'est très important. Et il faut savoir qu'à la DIL, on peut également vous accompagner dans la vérification de vos contrats.
Alors, une question a été posée. Est-ce que, justement, le professionnel qui détient une assurance décennale coûte-t-il beaucoup plus cher que celui qui est juste à côté, qui n'a pas spécialement... qui n'est pas en règle? C'est ne pas être en règle,
il
ça.
Il n'est absolument pas en c'est règle. C'est ça, hein, il n'est pas en règle. Je rappelle quand même que le défaut d'assurance décennale pour un constructeur, ça le rend passible d'une amende et voire d'une peine de prison.
Parce que son souci, en fait, l'audit, c'est plutôt le fait que ça coûte cher, tout ça.
Alors, c'est ce qu'avance effectivement le professionnel. Mais s'il y a des professionnels qui sont assurés, c'est qu'ils ont à cœur le respect de la réglementation, tout simplement. Donc, après, on ne peut pas tout à fait... On peut pas vous voulez prendre en compte le coût que ça pourrait représenter, puisque à partir du moment où c'est une obligation légale, c'est comme si vous me dites vous avez une voiture, mais ça coûte trop cher d'assurer votre voiture, donc vous roulez sans assurance au risque de renverser un piéton, de blesser gravement ou de tuer quelqu'un et de ne pas pouvoir faire jouer l'assurance pour, si vous voulez, réparer les dégâts commis. Donc, on raisonne exactement de la même façon. Le professionnel qui n'est pas assuré, il vous fait courir un risque. Parce que demain, si vous avez des dégâts sur votre maison, eh bien, si entre-temps, le professionnel a disparu de la circulation ou qu'il ne répond pas à vos appels, vous ne pourrez envisager aucune indemnisation. Donc, les travaux éventuels, ça sera à votre charge.
C'est curieux parce que cette remarque d'auditeur, malheureusement, souvent, on voit que certaines maisons sont faites comme ça, en fait. On va vers des personnes qui ne nous coûtent pas trop cher et pourtant, après, ça nous coûte vraiment cher en regardant bien.
Oui, mais vous connaissez notre proverbe local qui dit « bon marché qui a coûté cher ». On est exactement dans cette logique. Donc, il ne faut pas regarder que c'est... Le prix, il est toujours par rapport à quelque chose. Donc, si quelque chose a un coût, c'est parce que ça vous assure derrière une certaine sérénité.
Sécurité aussi.
Il peut ne rien se passer comme il peut se passer quelque chose. Donc, sachant qu'on n'a pas de pouvoir on ne peut pas savoir ce qui peut arriver. Donc, il faut anticiper le risque. Et anticiper, c'est exiger du professionnel qu'il soit à jour de cette obligation légale d'assurance. Je rappelle que ce n'est pas une option, c'est une obligation. Donc, il faut vraiment faire la différence entre « je peux » et « je dois ».
D'accord.
Donc, je dois être assuré en tant que professionnel et je dois également fournir à la personne qui me confie les travaux de sa maison mon attestation d'assurance. Donc, ça joue aussi bien pour une construction que pour une rénovation de maison. Dernièrement, j'avais une personne qui souhaitait refaire sa toiture. Elle me dit que, elle appelle pour avoir un conseil. Le professionnel lui dit qu'il n'a pas l'assurance. Donc, elle me dit, est-ce que je peux quand même y aller? La réponse, évidemment, c'est non. Vous ne devez pas. Alors, il y a une pratique aussi qu'on observe souvent, c'est que le professionnel va vous faire un prix avec décennale et un prix sans décennale. Donc, après, c'est chacun avec, si vous voulez, sa conscience mais il faut que nous soyons aussi exigeants nous-mêmes. Si on veut quelque part une qualité, une démarche de qualité, il faut que celui qui paye, c'est celui qui doit exiger.
Tout à fait. Et être au courant aussi de certaines choses, bien sûr.
Et justement, plus on aura de personnes averties, moins on aura de phénomènes si vous voulez, de phénomènes de tentatives de faire en dehors du cadre légal.
Tout à fait. Vous l'avez bien souligné, c'est comme ça qu'on va reconnaître qu'on fait un bon professionnel, en tout cas quelqu'un qui saura nous, entre guillemets...
Voilà, ça fait partie... Donc, c'est au moins un des éléments qui est un bon indicateur. Voilà.
Très bien. On continue ? Allez-y.
Voilà. Donc, le professionnel également, c'est un professionnel qui va s'appuyer aussi sur les réglementations, qui va s'informer aussi de toutes les contraintes des normes de construction, qui va essayer donc s'attacher, en tout cas, à travailler dans les règles de l'art. Voilà. Donc, bon, il faut savoir que... bien être, pour sa construction, bien être entouré, c'est avoir plusieurs professionnels. Donc, une seule personne ne peut pas revêtir la même casquette. Mm-hmm. Donc, l'architecte a son rôle, l'ingénieur bureau d'études, donc celui qui fait les plans en béton, les plans de structure, il a son rôle. Donc, chacun intervient à son niveau dans la conception du projet, de manière à aboutir à un projet qui soit viable au niveau de la réglementation parasismique et paracyclonique également.
Donc, très bien.
N'oublie pas aussi le cyclone qu'on connaît probablement mieux, mais il y a les deux réglementations. Donc, tous les professionnels, lors de la conception du projet, vont travailler de concert pour qu'on tende vers une construction la plus respectueuse des normes.
Quelles sont les questions les plus récurrentes qui viennent de votre côté?
Les questions les plus récurrentes, c'est est-ce que, justement, par rapport au choix du professionnel, comment faire le tri entre le bon grain et l'ivresse, c'est ça, hein, c'est toujours l'inquiétude des personnes, comment bien choisir mon professionnel. Sur le choix du contrat, est-ce qu'il vaut mieux pas passer par un constructeur unique, un constructeur clé en main? Est-ce qu'on est obligé de prendre un architecte? Est-ce que je peux prendre un maçon, quelqu'un qui voilà, m'a proposé de faire ça? Est-ce qu'il peut me faire la maison en totalité? Alors, voilà, parce que en fait, la personne qui fait construire le maître d'ouvrage, il a plusieurs possibilités. Donc, nous, on lui présente ces possibilités et on lui dit justement, par rapport à tel ou tel choix, quelles seront les vérifications qu'il aura à faire.
Mais c'est sûr que quand on fait c'est une question qu'on vous pose, là, comme ça, quand une maison a été réalisée clé en main par une structure habilitée, on a moins d'inquiétude.
Alors, je ne dirais pas ça, je ne serais pas aussi affirmative. Hein.
C'est une question.
Je dirais en tout cas que c'est le contrat de construction clé en main est très réglementé. Hein. La réglementation est quand même assez stricte. Donc, c'est un contrat qui représente un bon compromis si on veut avoir un contrat qui est bien balisé juridiquement. Mais il conviendra quand même de s'assurer toujours des mêmes éléments. Donc, que le constructeur détient les garanties obligatoires qui concerne l'exercice de sa mission.
Très bien. Donc, en fait, vous êtes un bon partenaire à la deal. Hein, dès que... C'est ça,
oui,
en fait.
Alors,
hein,
nous, notre rôle, voilà, vous avez bien compris que c'est quand même assez complexe hein, de faire un petit peu la part des choses. Mais nous, notre rôle, justement, c'est d'accompagner le particulier dans son projet et de le conseiller pas à pas, mais aussi de prévenir tout risque de contentieux. Donc, un particulier qui vient à la deal très tôt, en amont de son projet pour s'informer, il dispose de toutes les cartes pour pouvoir mieux appréhender ses relations avec les professionnels. Donc, il saura déjà au départ ce qu'il va demander, ce qu'il va devoir vérifier. Il va pouvoir faire la différence entre telle ou telle proposition. S'il a un doute, il va avoir le réflexe peut-être de nous appeler pour confirmer ou pas ce doute. Donc, la démarche de la deal, c'est d'avoir l'information. Et l'information, quel que soit le domaine, hein, et en particulier dans le logement, ça, c'est quand même la clé. Donc, nous, notre rôle, il est vraiment préventif. Bien évidemment, lorsque vous aurez déjà terminé votre maison et que vous allez découvrir malheureusement les problèmes, il est déjà trop tard. Là, on s'inscrit dans une démarche contentieuse. Souvent, quand le cas se présente, on peut que conseiller à la personne peut-être une action en justice pour essayer de voir comment elle peut sauver les meubles, être indemnisée. Mais bon, ça génère beaucoup d'amertume. Votre beau projet, ça devient pratiquement l'enfer. Hein. Vous retrouvez déçu. Vous avez peut-être perdu beaucoup de temps, d'argent, d'énergie.
Oui.
Voilà, donc c'est vrai qu'on peut éviter ces situations. Je l'explique toujours aux personnes qui viennent nous voir dès le début. Il y a beaucoup de situations qui peuvent être évitées, beaucoup de problèmes, de difficultés qu'on peut éviter si on prend le temps de se renseigner très tôt.
Très bien. Est-ce qu'on a un numéro de téléphone à soumettre?
Oui, alors plusieurs façons de rentrer en contact avec nous. Hein, donc, nos coordonnées téléphoniques, le 0590 89 43 63. Donc, pour prendre rendez-vous ou éventuellement pour une consultation téléphonique, si vous avez une question particulière, hein, puisque c'est très rapide, hein, c'est le matin entre 7h30 et 9h. Mais dans le cadre d'un projet ou d'une étude de projet immobilier, il vaut mieux prendre rendez-vous. On peut aussi vous conseiller de consulter notre site internet, donc www.adil971.org. Donc, ce site contient un certain nombre d'informations qui sont relayées, les liens aussi vers nos partenaires. Voilà. Et on a des rubriques qui sont à jour régulièrement. Vous trouverez également sur le site les coordonnées et les dates de nos permanences, puisqu'on a des permanences hors de notre siège, à Grand Camp, à Saint-Martin, Mornalo et Petit Canal. Donc, il est possible de nous consulter sur ces trois sites. Voilà. Et donc, sur rendez-vous, du lundi au jeudi.
Voilà, on va commencer par celui-là, 05 90 89 43 63.
Voilà.
C'est bien ça, voilà. 0590 89 43 63. Si vous avez des interrogations ou si vous voulez poursuivre cet entretien, vous pouvez, elles sont là. Ces professionnels sont là, justement, de manière à vous conseiller. Auriez-vous une dernière, nous arrivons quasiment à la fin, auriez-vous quelques éléments à porter avant de nous séparer? Allez-y.
Oui, voilà, donc ce que je voudrais dire aux auditeurs, aux personnes qui nous écoutent, c'est surtout que voilà, le risque sismique existe, hein, nous sommes tous concernés et c'est cette action commune, hein, ce désir d'anticiper, de se renseigner, qui va nous permettre de faire face si nous devions être confrontés à un séisme majeur. Donc nous avons tous la responsabilité de bien faire. Donc l'ADIL peut en ce sens vous donner des conseils, des conseils judicieux pour justement anticiper ce risque par rapport à votre futur projet de construction ou si toutefois vous êtes un locataire ou propriétaire d'un logement que vous souhaitez mettre en location.
Voilà, Madame Christine Combé, on vous remercie pleinement.
Je remercie également Madame Varin de la DEAL, hein, qui nous a permis donc d'intervenir sur votre antenne.
Voilà, ce fut un plaisir en tout cas. Merci encore d'avoir été des nôtres. Vous êtes conseillère juriste au niveau de la DEAL. En tout cas, un numéro de téléphone à bien noter, 0690 89 43 63. On vous remercie pleinement.
Je vous en prie.
Rendez-vous à très bientôt.
Bonne journée.
Au revoir.